Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec les coups de gueule et les coups de cœur des débatteurs. Aujourd'hui, Bertrand Soublet, bonjour, ancien général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
Bonjour Régis de Castelnau, avocat, votre blog Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Tiens, ça paraît quand Front Populaire ? On n'en entend plus trop parler.
Comment ça ?
Non.
Le numéro 5 paraît ces jours-ci.
Ah ben voilà, vous voyez, j'étais impatiente. Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur, votre chaîne Les Indécis, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour, bonjour à vous.
Bonjour.
Eh bien, nous allons parler de ce coup de tonnerre ce week-end, accord entre La République En Marche, La République et LR. C'est une aubaine pour le Rassemblement National. Ça a été beaucoup commenté, vous le savez. On va y revenir. Macron et le déconfinement, donc Paris risqué, on l'a évoqué, puis on reviendra sur ce clip, allez le voir, qu'a tweeté Emmanuel Macron, un clip qui semble annoncer une libération, des jours heureux. Certes, c'est ce que nous espérons tous, mais néanmoins, cette explosion de joie me paraît un peu prématurée, mais nous verrons, et puis on reviendra sur les violences qu'il y a eu pendant la manifestation du 1er mai. Alors, commençons avec notre tour de table, Sophie, coup de cœur.
Oui, absolument, et j'élève le débat, oui. Parce que c'est un livre écrit par Jean-Marie Roire, donc, qui est académicien, et qui s'appelle, qui est sorti aujourd'hui, je crois, ou enfin la semaine dernière, « Ce pays des hommes sans Dieu ». Et je le montre, oui. Si on peut le voir.
Oui.
Et c'est assez extraordinaire parce que, en fait, c'est un livre contre le principe de laïcité, en tout cas l'inscrire dans la Constitution comme suggère Xavier Bertrand.
Oui.
Et il fait, c'est absolument remarquable culturellement, et il dit que renoncer complètement à la religion catholique, à la France fille aînée de l'Église, c'est renoncer à notre culture et à notre histoire. Et que c'est pas une question de foi, quoique il explique combien l'homme a besoin de croire, enfin de dire depuis toujours. Et au moment où on a quand même une civilisation qui est l'islam, qui essaie de s'imposer dans le monde entier, opposer un pays où on ne donne pas où on renonce complètement à l'idée de Dieu, c'est contre-productif et c'est grave au-delà de la religion elle-même. Et franchement, ce pays des hommes sans Dieu, il y a une espèce d'intelligence, de logique à expliquer tout ce que ça représente pour nous. Je veux dire, nos cathédrales, ça veut dire les pays, etc. Alors, il ne faut pas tomber dans le détail, entre guillemets. Et par exemple, je suis en train de penser, enfin ça, il le cite pas d'ailleurs, mais l'interdiction des crèches dans les mairies, alors que Evian va s'excuser parce qu'ils ont incité à boire de l'eau le jour du Ramadan. Je veux dire, si on tombe là-dedans, c'est dramatique. Et en plus, je veux dire, il faut respecter la foi quelle qu'elle soit des gens, et la France n'a pas à faire de la laïcité une religion. Et donc, franchement, c'est un, je veux dire, on apprend tellement de choses. Jean-Marie Roire, ce pays des hommes sans Dieu.
Oui, écoutez, c'est chez quel éditeur ?
Flammarion. C'est chez la collection Bouquins.
Alex, coup de cœur.
C'est un coup de cœur pour cette jeune femme réserviste qui a sauvé la vie d'un homme.
Oui.
Il y a quelques jours, cet homme qui faisait son jogging, qui s'est écroulé, et elle était là, cette jeune femme réserviste qui s'appelle Laurie, de mémoire, et qui a fait les premiers soins, les premiers secours. Elle a massé, rendez-vous compte, 15 minutes. Elle a fait un message cardiaque de 15 minutes à cet homme, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Et tout est beau dans cette histoire, parce que d'abord, on sauve la vie d'un homme, et dans les temps actuels, c'est beau à signaler. Et surtout aussi parce que la femme de cet homme qui s'était écroulé a recherché cette sauveuse.
Oui, avait mis des petites affichettes dans le parc.
Exactement.
Où il s'est effondré.
Parc Monceau, je crois,
parc
à Paris.
Monceau, absolument.
Et où il s'était effondré. Et puis après, il y a eu un relais par les réseaux sociaux. Donc c'était le meilleur des réseaux sociaux qui en est ressorti. On a réussi à retrouver cette femme. Et puis il y a eu la rencontre, je crois, il y a deux jours entre ces deux femmes. Donc je trouve cette histoire vraiment belle. Et puis ça dit aussi beaucoup de choses sur le fait que on sous-estime quelquefois les gestes de premier secours. C'est pas qu'on les sous-estime, c'est qu'on les met pas assez en avant, à mon sens. Et que, alors je crois qu'il y a des cours obligatoires dans les écoles.
Dans les entreprises, même en principe, mais je vous conseille de le faire parce
c'est
qu'on
n'y
pense pas.
Exactement.
Et c'est très facile d'avoir, de donner des cours de premiers soins.
Des soins de premiers soins. Et ça peut être vraiment.
Ça s'appelle formation SST, me dit Bastien, notre.
Voilà. Alors cela dit, je suis à 200% d'accord, c'est formidable. Et en même temps, il y a le côté tellement... tellement actuel, tellement feuilleton, tellement il l'a retrouvé, j'étais dans les réseaux sociaux. Bon, d'abord qu'elle masse un quart d'heure, heureusement qu'elle masse un quart d'heure, et j'espère que n'importe qui d'entre nous l'aurait fait, mais ça n'empêche pas que c'est fabuleux. Ouais. Mais la mise, le Parisien qui en fait quasi la une, où elle rencontre la femme du mec qui était à l'hosto, est-ce que c'est pas aussi un des travers de la société, de l'émotionnel de... Bon, alors, c'est un bon exemple. S'ils étaient tous comme ça, on est d'accord.
Mais c'est vrai qu'il y a un moment, j'ai trouvé ça formidable, mais de voir cette photo de la fichette en permanence. Mais,
sans doute. Après, elle a été retrouvée, il y a une rencontre. Moi, je trouve que c'est bien dans les intellectuels quand on parle que de mauvaises choses, que des uns contre les autres, rien ne va dans la société. Bon, bah voilà, il y a quelque chose qui va. Et il y a une rencontre, une belle rencontre. Et puis surtout, elle a sauvé la vie d'un homme.
C'est ça le plus important. Les médecins ont dit que si elle n'était pas intervenue tout de suite dans la première minute, ça aurait pu être très, très, très grave. Un avis, général Soublé ?
Ben écoutez, je pense que le geste est formidable. Après, c'est comme tout le temps, l'exploitation médiatique dans l'émotion permanente.
Oui, l'émotion.
C'est ça qui est un peu gênant. Et je suis d'accord avec Sophie de Menton là-dessus. Ouais. Mais le geste est formidable et il faut encourager ce genre de comportement parce que malheureusement, la solidarité dans notre pays, on en parle beaucoup, mais on la pratique assez peu.
C'est vrai.
Je trouve ça très bien qu'il y ait ce déferlement d'émotions. Moi, je suis désolé, je marche d'abord, je commence par marcher. Je trouve que c'est effectivement une belle histoire. Les réseaux, qu'est-ce que vous voulez ? Ils vont partout. Alors, il y a bien évidemment une espèce de gonflement. Je veux dire, dans la période qu'on vit, où on a un pays à cran, où il y a des tensions tout à fait considérables, que ce genre de choses, ça montre que ça existe.
Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est-à-dire que, et moi, je trouve ça, vive les réseaux.
Tout le monde peut le faire. Arrêtez-vous, regardez autour de vous. Des fois, ça peut servir.
Oui. Non, puis l'émotion aussi. Je veux dire, oui. Moi, j'ai trouvé ça.
L'émotion, vous disiez peut-être pas la même chose la semaine dernière à propos de la justice. Hein, la justice, émotion,
Attendez. Là, il s'agit. Il s'agit d'entraide. Je vais en dire un mot de la justice. Il s'agit d'entraide. Et effectivement, que la justice cède à l'émotion, mais je vais en dire un mot.
Allez-y. Oui,
et pas seulement... Non, je commence mon propre coup de gueule.
Allez-y, commencez votre propre coup de gueule.
Parce
que ça a rapport, effectivement...
Parce que, si vous voulez, la justice, il y a la dictature de l'émotion, mais qui sont responsables ? Qui sont ceux qui y cèdent ? Ce sont les magistrats. Alors moi, j'ai été assez scandalisé quand même par ce qui s'est passé après la fameuse lettre des 1000 milis. Je dis ça pour la littération et je la trouve sympa. Mais j'ai des réserves sur cette lettre, sur certains des aspects, etc. Mais qu'est-ce que j'ai entendu ? Oui, devoir de réserve violé. Tentative de putsch. Nous avons désormais quasiment Pinochet qu'on veut mettre à l'Élysée. Et c'est même personnes qui ont dénoncé cette tribune et qui veulent que les militaires se taisent, pourquoi pas, sont muets dès lors qu'il s'agit de la magistrature. La magistrature française est politisée, la magistrature française passe son temps à prendre des positions officielles par l'intermédiaire de ses syndicats, la magistrature française a fait des pétitions, déposé des plaintes contre la nomination par le pouvoir exécutif du nouveau garde des Sceaux, mais attendez, et la séparation des pouvoirs c'est quoi ? Et puis surtout, au printemps 2017, il y a eu un putsch judiciaire. La magistrature, certains de ses membres en tout cas, soutenus par la Chambre d'instruction, par la Cour de cassation, ont liquidé judiciairement la candidature de François Fillon pour permettre l'élection d'Emmanuel Macron. Donc, je trouve que cette devoir de réserve à géométrie variable était éminemment critiquable.
Oui, Bertrand Soublet, une réaction ?
Oh ben écoutez, moi je pense que les militaires, surtout lorsqu'ils sont à la retraite, sortis de toutes les activités, ne sont pas des sous-citoyens, ils ont le droit de s'exprimer. Donc je n'ai pas très bien compris cette polémique. Et ce qui m'a surtout beaucoup déplu, c'est la réaction du microcosme politique et intellectuel parisien en parlant de putsch, en parlant de mots, en utilisant des mots qui sont... tout à fait décalé par rapport à la réalité de cette lettre. Alors, moi, je n'en partage pas complètement la forme, le fond, mais la forme. Oui. Mais pour autant, ces réactions ont été tout à fait excessives et je suis assez d'accord avec l'analyse de M. de Castelnau parce que franchement, il y a des moments où on ne peut pas avoir une opinion à géométrie variable.
Oui. J'avais oublié le mur des cons. sur lequel votre camarade Schmitt était épinglé, père d'une victime, hein, et où le président de la République en exercice était également épinglé comme un con, hein, dans un lieu ouvert à tous les vents. Ça suffit, il n'y a eu aucune sanction disciplinaire. Donc,
si,
ce,
ce sanction,
poids de mesure, moi,
non,
il m'est difficilement supportable.
Il n'y a pas eu de sanction ?
Non.
Non, non, non. Aucune sanction
elle
disciplinaire.
Elle a été promue, celle qui était... Qui te, je crois qu'elle a été promue...
Je crois qu'il faut vérifier, parce qu'il me semble qu'il y avait eu...
Il me semble qu'il y avait eu une sanction.
Non, non, il y a eu une condamnation pour injure publique vis-à-vis du général Schmitt, d'ailleurs, hein, qui est une réponse judiciaire. Il n'y a eu aucune réponse disciplinaire. Disciplinaire. Le devoir de réserve des magistrats, il est considérable. Ils ne doivent pas être soupçonnés de partialité politique. Hein. Leur neutralité est un élément fondamental de leur mission. Ils passent leur temps à la violer. Enfin, écoutez, on fait des manifestations, on signe des pétitions. La première présidente de la Cour de cassation et le procureur général font des communiqués pour protester contre l'arrivée de Éric Dupond-Moretti, que je n'apprécie pas beaucoup, au poste de garde des Sceaux. Mais enfin, attendez, non, 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 il y a un véritable problème avec cette politisation.
Oui, donc vous confirmez, Bertrand Soublet, qu'en fait, les militaires... Alors, il y en a qui n'étaient pas à la retraite, donc eux, théoriquement, ils n'avaient pas le droit de parler.
C'est-à-dire que ceux qui sont en activité, ils sont soumis à un devoir de réserve, mais c'est toujours pareil. Ouais. Tout le monde parle du devoir de réserve, mais en réalité, personne ne sait exactement de quoi il s'agit. Parce que quand on regarde la loi, quand on regarde les règlements, il n'y a rien de défini, et c'est essentiellement de la jurisprudence, elle n'est pas très nombreuse. Ouais. Donc, si vous voulez, on se réfugie dans notre pays souvent derrière des grands mots, et en réalité, quand on gratte un petit peu, il n'y a pas grand-chose derrière.
Ouais. Alors, je voudrais ajouter une petite précision, c'est de nouveau le juriste qui parle, c'est que oui, vous avez raison, en général, le devoir de réserve n'existe pas dans la loi. C'est une création prétorienne, c'est-à-dire c'est la jurisprudence du Conseil d'État. Mais ensuite, effectivement, on le déduit des articles 421-1 à 8 du Code de défense qui prévoient les conditions d'expression d'usage par les militaires de leur liberté d'expression. Il y a d'autres éléments. Il y a le devoir d'obéissance qui est commun à toute la fonction publique. Donc, on combine ça. Hein, et puis, il y a le principe absolu de subordination du pouvoir militaire au pouvoir civil. Hein, donc, on considère que, et je partage cette idée, que effectivement les militaires ont une faculté d'expression qui est relativement contrainte, surtout pour les militaires d'actifs. Mais vous avez raison, les militaires en retraite redeviennent des citoyens comme tous les autres et ils ont leur totale liberté d'expression et leur liberté politique.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Et c'est le 10h midi avec vous. Nous commentons l'actualité avec Bertrand Soublet, général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France. C'est le mouvement de Rafik Smati. Régis de Castelnau, vous êtes avocat. Votre dernier livre, Une justice politique, est paru aux éditions de l'Artilleur. Et vous publiez un certain nombre de réflexions sur votre blog Vue du droit. Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur, votre chaîne Les Indécistes, une chaîne de commentaires politiques. Ouais. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Accord LR, LREM en PACA, une aubaine pour le RN. Est-ce que ça augure d'une mauvaise passe pour le mouvement Les Républicains? On va revenir sur le clip d'Emmanuel Macron qui sous prétexte ou sous couvert de donner les dates de déconfinement, envoie des images plutôt heureuses. Donc oui, on est tous heureux de déconfiner maintenant. Est-ce que c'est bien prudent de faire ça? Et puis, manifestation, des violences, encore des violences, toujours des violences. J'en profite pour parler de ce qui s'est passé à Valence. Et le maire de Valence qui dit que certains quartiers sont dans une situation de chaos. Il y a eu des tirs à balles réelles entre bandes rivales. Il dit qu'il est impuissant, qu'il est dans une situation d'urgence absolue. Tout ça passe complètement
sous
les radars. On en parle, il y a un article ici ou là, mais bon sang. Bertrand Soublet.
Écoutez, je ne connais pas
Valérie, vous imposez le devoir de réserve à Bertrand Soublet, on n'a pas eu son coup de gueule.
Sur quoi? Bah oui, non, mais c'est parce que j'avais ça sous les yeux, mais on va l'avoir son coup de gueule. Mais enfin, c'est quand même invraisemblable cette histoire. Ouais. Ça peut être. Enfin, moi, c'était mon coup de gueule. Hein.
Moi, je ne connais pas la situation de Valence, si vous voulez, mais ça fait très très longtemps que je dis, que j'ai écrit même, il y a plusieurs années, que nous avons un certain nombre de quartiers dans nos villes qui sont soumis à un fonctionnement qui est un fonctionnement mafieux. Et Valence, encore, est un, un exemple tout particulier. C'est étonnant parce que Valence n'est quand même pas une ville extraordinairement touchée, normalement. Il y en a qui le sont bien davantage. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, sachant tout ce qu'on sait aujourd'hui, nous n'ayons pas pris des décisions suffisamment vigoureuses et énergiques afin de traiter ce sujet. Parce que les lois de la République, effectivement, ne s'appliquent plus dans certains endroits. Et les policiers et les gendarmes ont parfois du mal à rentrer dans certains quartiers s'ils ne sont pas, s'ils n'arrivent pas en force. Donc, ça pose un vrai problème.
Ouais. Alors, j'ai une question à vous poser, d'ailleurs. En France, les policiers n'ont pas le droit de tirer, sauf pour tuer et en cas de légitime défense, si je ne m'abuse. Et il y a un moment où, quand il y a des quartiers où c'est à balles réelles, il faut avoir le droit de se défendre. Et je pense qu'il y a, quelque chose à faire. C'est quand même insensé. En tant que réserviste, je veux dire, la gendarmerie m'a bien expliqué ça. Le gendarme qui tire alors qu'il n'est pas en état personnel de légitime défense va devant les tribunaux immédiatement. Ils m'ont raconté l'histoire d'une voiture qui fuyait, etc. Ils ont essayé de tirer dans les roues, mais à côté d'eux, ils n'ont jamais visé la personne qui conduisait, etc.
Oui, mais c'est pour éviter tout risque de bavure.
Oui, aussi, alors on évite, à force d'éviter tous les problèmes, suis d'accord. Ouais. Il y a un moment où il va falloir une répression très sérieuse, et je suis désolée. Là, c'est plus supportable face à des quartiers, face à la violence.
Mais bien sûr, mais bon, il y a d'autres méthodes que de tirer sur les gens.
Non, mais il y a d'autres méthodes. Ouais. Bah, oui, d'accord. Alors, d'abord, lesquelles? Et deuxièmement, je pense que cette question de... Là, on parle de balles réelles.
Oui, bien sûr, vous avez raison.
Uniquement dans ce cas de balles réelles. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je m'adresse à l'armée. Que, vous savez, on a un régime juridique dans notre pays qui est assez particulier et même les gendarmes qui autrefois n'étaient pas soumis à la même réglementation que les policiers sont soumis désormais à la légitime défense par les décisions de jurisprudence qu'il y a eu. Donc c'est assez terrible. Et lorsque j'entends un ministre de l'Intérieur, pas celui-là, mais un des prédécesseurs qui disait à l'occasion d'incidents qui s'étaient passés dans les quartiers nord de Marseille où il y avait eu des tirs à balles réelles à Kalachnikov, il s'était félicité que les policiers n'aient pas répondu. Vraiment, je dis qu'ils se trompent. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Car quand les policiers sont attaqués à balles réelles, ils doivent riposter à balles réelles. Sinon, l'autorité de l'État est complètement bafouée. Alors
là,
oui, ça pose des problèmes, effectivement, parce que c'est l'état de guerre quasiment. Mais vous savez, dans certains quartiers, c'est exactement ce qui se passe. Il faut y aller. Moi, j'aime beaucoup tous ces gens qui font des réflexions et qui ont des théories absolument extraordinaires sur la manière dont on pourrait régler le problème dans les quartiers, mais qu'ils y aillent, au moins une fois pouvoir commencer. Eh bien, je peux vous dire qu'ils changeront d'avis.
Oui, là c'était entre bandes rivales. Il n'y avait pas de policiers.
Voilà, c'est un peu comme
à Dijon il y a quelques mois, c'était entre
Dijon,
bandes rivales. C'est ça qui est très compliqué
où
aussi.
Où on voit émerger des fusils d'assaut, excusez-moi, pas seulement en plastique. Ouais. Non, je
que
me
ce soit des
question.
Bandes rivales ou pas. Hein.
Je me pose une question et je trouve que c'est quand même un symptôme assez extraordinaire. On nous explique, et je souscris probablement à cette explication, que les quartiers actuellement, les quartiers comme on les appelle, c'est-à-dire que c'est territoire perdu de la République, on essaye un petit peu de mettre fin, ou en tout cas de réprimer l'économie parallèle qui les fait vivre, hein, soyons clairs, qui est le trafic de drogue qui a été confisqué par de nouveaux gangsters. Le milieu a complètement changé, il est essentiellement d'origine maghrébine. Et donc, cette violence serait une réponse à cette tentative de récupérer le contrôle républicain de ces quartiers. Et là, je trouve que si ça s'est avéré, c'est d'une gravité exceptionnelle. Ouais. C'est-à-dire que lorsque la République essaye de reprendre le contrôle du territoire pour l'ensemble de la population, elle se fait accueillir, on l'a vu avec des violences mortiers, des tentatives de meurtre comme l'affaire de Viry-Châtillon, et maintenant on nous annonce, et on sait que ça va être possible parce qu'ils sont armés, on nous annonce que ce sera à balles réelles, et pas à balles réelles avec des pistolets de poing, ce sera à balles réelles avec des fusils d'assaut. La Kalachnikov, c'est un fusil d'assaut. C'est l'étal à 400 mètres. Hein, donc, je pense que la situation est quand même assez terrifiante.
Oui, mais dans ces cas-là, excusez-moi, pourquoi ne pas envoyer l'armée, alors, dans ces cas-là? Si la situation est si terrifiante que cela, pourquoi demander aux policiers et aux gendarmes de tirer à balles réelles et ne pas envoyer l'armée directement?
Pourquoi l'armée? L'armée n'est pas faite pour ça, a priori, on a une police.
C'est
ce que dit l'appel des 1000 militaires, ils parlent des trois échelons, on a d'abord la police, on a la gendarmerie, et après on a l'armée.
Commençons par renforcer la gendarmerie et la police.
Oui, je ne sais pas. Bertrand Soublet, on envoie l'armée? Qu'est-ce qu'on fait?
Mais non, on n'envoie pas... on n'envoie pas l'armée, bien entendu. On a des forces de sécurité qui sont dont c'est le travail, dont c'est le métier. Donc, il ne faut pas employer les uns et les autres à contre-emploi. Ça n'a pas de sens. Absolument. Il y a dans notre loi une possibilité d'utiliser les formes de ce qu'on appelle de troisième catégorie, c'est-à-dire les armées, mais dans des circonstances très particulières. Nous n'y sommes pas encore. Oui. Essayons de régler le problème avec les forces de sécurité et en utilisant tout l'arsenal juridique dont nous disposons, avec un peu de courage politique, et puis après, on pourra faire le point. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore. Et ce matin, je précise que le maire de Valence était sur Sud Radio. Vous pouvez le réécouter, réécouter son interview. Il était chez Patrick Roger et c'est vrai qu'il dit, je lance un cri d'alarme, on est en situation d'urgence, c'est en train de gangréner toute la France. Bertrand Soublet, vous aviez effectivement un coup de cœur.
Ah oui, alors on change complètement de sujet.
Oui, on change complètement de sujet.
Ah oui, non mais ce matin je me suis dit, on va peut-être prendre un petit peu de hauteur. Et donc c'est un petit coup de cœur à la Station Spatiale Internationale, bien sûr pour la présence de Thomas Pesquet, notre spationaute évidemment, mais surtout pour l'exemple de coopération internationale qu'il y a là-haut avec des pays qui n'ont pas toujours la même vision du monde et partager cette expérience si haut, à 300 km au-dessus de nos têtes, entre les États-Unis, la Russie, l'Europe, le Canada, le Japon, pour faire progresser la recherche et avancer la science, eh bien, moi je trouve que c'est une approche pragmatique et utile au bien commun. Et j'aimerais bien que nos responsables politiques s'inspirent de cet état d'esprit, parce que c'est un peu ce qui nous manque. Oui, voilà, c'est ce c'était juste mon petit coup de cœur ce matin.
Ça
n'en prend pas trop le chemin, entre les rapports des États-Unis, la Russie et la Chine. C'est pas tout à fait l'ambiance, hélas.
Pas du tout, même.
C'est pas exactement ce qui est en train de se passer sur le plancher des vaches. Voilà. Hier, donc, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le retrait de la liste LREM pour les élections régionales en PACA. Cela au profit du président sortant Renaud Muselier qui a perdu. Donc cette investiture LR, il a effectivement rejoint, enfin ou en tout cas intégré la liste, les troupes de la candidate Sophie Cluzel. Donc c'est un rapprochement indéniable entre LR, LREM, en tout cas en PACA. Donc quelles conséquences, quelle analyse politique est-ce que vous en faites les uns et les autres? Est-ce que c'est effectivement, ça va devenir très compliqué pour LR d'exister, Alex?
Ah bah oui, je pense que là c'est une balle de plus dans la tête de LR, honnêtement. C'était une région qui était très forte pour les Républicains, la PACA. Vous avez celle avec Bruno Retailleau aussi qui était LR. Toutes les autres régions finalement sont pas encartées LR. Xavier Bertrand dans le Nord, c'est pas le cas. Valérie Pécresse en Ile-de-France, c'est pas le cas. Hervé Morin, c'est pas vraiment le cas non plus. Il est plutôt au centre, donc oui, c'est très compliqué pour LR. Alors à qui profite le crime? Honnêtement, je ne sais pas.
Bah si.
Bah, non, mais ça profite peut-être au Rassemblement
national. Il va être ministre, Muselier. Je parie que les auditeurs.
Bien sûr. Il a déjà été Muselier ministre.
Oui, honnêtement,
il a déjà été.
C'est dans l'objectif de gagner. Rappelez-vous, c'était en PACA, c'est ce qui avait été fait au municipal avec Christian Estrosi.
Et donc, en gros, vous trouvez ça bien?
Ah non, donnez-moi, je ne suis pas là pour dire si je trouve bien ou pas ça bien. Je dis que c'est trop tôt pour dire à qui va profiter l'histoire. D'accord. Est-ce qu'elle va profiter à LREM? Parce qu'on prépare quoi? On prépare les élections présidentielles derrière tout ça. On est tous d'accord là-dessus. Oui, donc est-ce que ça va profiter à LREM ou au Rassemblement National? C'est trop tôt. C'est trop tôt pour savoir.
Je suis d'accord, mais ce que je sais, moi, c'est que... Alors, vraiment, c'est à titre personnel, etc. Je trouve ça presque indécent de nous faire de la politique aérienne en ce moment. On est un pays qui se bat. Oui. On a les gens qui essaient de bosser. On est en train de se battre contre une pandémie, de garder notre économie, etc. Ils nous emmerdent avec des histoires de « je te désiste, mais là, je garde la place ». Et ils sont en train, dans les états-majors, c'est des querelles d'états-majors. Oui. Je trouve ça d'une indécence incroyable.
Oui. Bah, c'est de la politique.
Oui, mais c'est pas le moment.
On nous avait dit que La République En Marche ne faisait pas de politique politicienne.
Oui,
ils
se sont tellement plantés depuis le début. Ça serait bien que là, s'ils vont avec des listes aux élections régionales, ils ne gagneront pas une région, peut-être même pas un siège.
Tant pis, je veux dire, on a un peu le courage de ce qu'on fait. Ils ont quand bien géré la France, ils auront des voix. Je veux dire qu'il y a un moment où c'est trop. Et alors, à qui ça va profiter? Alors moi, mon sentiment, c'est que ça ne va pas changer d'un iota les votes qui sont... Il y a les votes Le Pen, ça ne va pas changer d'un iota. On continue à voter Le Pen encore plus.
Oui, mais les gens qui avaient prévu de voter pour Muselier vont peut-être se dire que bah, comme il y a des candidats Macron, ils vont peut-être voter Le Pen.
Donc,
vous dites ça ne va rien changer. Si, ça
pas
peut changer.
Chose.
On va y revenir dans un instant. On marque une petite pause. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Cet accord LR-LREM en PACA, alors est-ce que ça va changer quelque chose pour le vote Rassemblement National ? Marie-Hélène nous dit, Sophie, vous faites une erreur. Mariani est très populaire et pour habiter dans le site, je peux vous affirmer que beaucoup ont déjà fait leur choix. Et au-delà de, cette question, est-ce que ça va profiter au Rassemblement National ? Il y a le parti Les Républicains qui semble être
Muselier
bien...
Muselier très populaire bien,
non, Mariani, le candidat du Rassemblement National.
Oui,
alors,
oui,
qui veut,
ça, je sais,
Bertrand Soublet, cet accord ?
Mais écoutez, moi je suis d'accord avec ce que dit Sophie de Menton. On est vraiment dans des manœuvres politiciennes absolument épouvantables. Et finalement, qui c'est qui va faire les frais de cette affaire-là à nouveau ? Ce sont les Français. Parce que qui parle d'idées ? Qui parle de projets pour la région ? Qui parle de ce qui intéresse les Français ? Personne. En fait, ce sont des petits arrangements entre amis. Chacun veut préserver son précaré, sa place. Et on est prêt à toutes les compromissions pour faire ça. Si c'est ça que les Français, c'est les hommes politiques régionaux, régionaux et nationaux proposent aux Français, franchement, à mon avis, ça n'augure rien pour les prochaines élections, qu'elles soient régionales, qu'elles soient législatives ou présidentielles, parce que franchement, je pense que les Français veulent autre chose que toutes ces chamailleries, tous ces petits arrangements entre amis qui franchement les dégoûtent. Ça, c'est mon sentiment.
Je ne suis pas trop d'accord.
Régis.
Je vais faire deux petites remarques. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que Castex est LR. Enfin, il est issu de ce mouvement-là, de cette politique-là. Hein, et aujourd'hui, LR, qui existe encore, hein, le système a été liquidé par Macron globalement avec son élection, les LR existent encore. Ils ont énormément de collectivités, ils ont encore des réseaux, ils ont encore une certaine puissance politique et ils sont profondément divisés. Ils sont profondément divisés. Vous avez Guillaume Larriviste, l'arrivée, surnommé Larriviste. D'un côté, ben je prends cet exemple. Ouais. Hein. Et puis, vous avez ceux qui sont partisans d'une droite plus dure. Et donc, ça fait partie, c'est la fin pour moi, du point de vue de Macron et de Castex, la fin de la liquidation du vieux système et du vieux système LR. LR va vers la scission. Ça, c'était ma première observation. Alors, qui en profite ? Je ne sais pas si c'est un débat. J'ai l'impression que dans la séquence qui vient de se dérouler, y compris avec l'appel des militaires, etc., avec tout ce qui s'est passé avec la justice, Viry Châtillon, etc., Marine Le Pen n'a pas à se plaindre de la séquence qui vient de se dérouler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup, la gauche se retrouve, Hidalgo, 4% dans les sondages, etc., etc. Tout ça, je veux dire, il faut être sérieux. Hein, si on regarde les études approfondies, les études pas seulement sondagières sur la présidentielle, hein, on peut quand même se dire que les régionales n'ont pas beaucoup d'importance politique et que la mère de toutes les batailles, ce sera l'année prochaine, Macron stop ou encore, hein, et en face de lui, Marine Le Pen. Le deuxième tour, il est déjà écrit. On sait, l'électorat de Marine Le Pen est fidèle, elle a les couches populaires, etc. Ils seront tous les deux, celui qui arrive en troisième ou quatrième position, il a 12 ou 13 points derrière. Je crois qu'il faut qu'on regarde cette réalité en face. Là, on est en train d'essayer, pour éviter ça, parce qu'effectivement, les Français disent à 61%, on ne veut pas de ce duel, moyennant quoi, ils votent pour qu'il arrive. Donc, je pense qu'il faut,
il faut être clair. Il faut être sondage pour l'instant.
Moi, je suis quand même,
ce sera ce débat-là.
Je suis quand même étonné de tout ce que j'entends sur ce plateau en disant qu'on est étonné de ce qui se passe. Enfin, rappelez-vous en 2015, quand même, que Castaner, qui était à l'époque candidat au régional pour le Parti Socialiste, s'était désisté pour Christian Estrosi au second tour. Enfin, c'était annonciateur de ce qui se passe aujourd'hui. Castaner était déjà dans l'esprit En Marche à l'époque. Donc, en fait, c'est comme ce qu'avait dit Manuel Valls il y a 5 ans, de gauche irréconciliable. Aujourd'hui, à droite, vous avez deux droites irréconciliables. Et vouloir dire. Je suis désolé, mettez Ciotti et Estrosi dans la même pièce, vous allez voir qu'est-ce qui sort. Enfin, franchement, peut-être aucun des deux d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a deux droites aujourd'hui qui sont irréconciliables, c'est certain. Et qu'on dise qu'on veut pas de magouille, enfin de manœuvre politique, mais enfin bon, c'est l'histoire de la politique, oui, de tous les temps.
Oui, mais Emmanuel Macron avait dit qu'il ferait pas de la politique comme les autres.
Mais il est obligé d'en faire.
Eh ben
il prépare sa campagne présidentielle.
Il prépare sa campagne.
Ouais, dans un an.
Oui, mais
s'il gagne, s'il gagne PACA, il aura en PACA Christian Estrosi qui le soutient à Nice, et puis il aura la région Renaud Muselier ou alors un autre s'il est ministre d'ici là qui le soutient. Ça sera quand même une très grosse prise de guerre.
Voilà. C'est pas pour ça que les gens voteront Macron en présidentielle.
Peut-être pas.
Si, alors, si.
Peut-être pas, mais ça
une
peut
partie jouer. De la droite, une partie de la droite a montré aux élections européennes, quand elle a abandonné Bellamy, hein, qui était annoncé à 14-15 dans les sondages, et qui s'est retrouvé à 8, parce qu'il y a une partie de cet électorat, de la bourgeoisie, qui a rejoint Macron. Donc le calcul qui est fait, je pense, en essayant de récupérer une partie, c'est la politique, hein, du parti de LR, il va se heurter à un obstacle, c'est que ça va provoquer de l'abstention différentielle de la gauche. Il ne refera pas Castor cette fois-ci. Donc, tout ça, mais on est dans cette bataille-là. On est dans la bataille Le Pen-Macron du printemps de 2022.
Moi, pardon, ça, mais les propositions, je trouve ça ahurissant. On est en train de discuter sur candidats. La France a besoin d'être réformée. On a vu les incapacités que nous avons eues pendant cette pandémie. On a vu tout ce qui se passait, y compris la sécurité, etc. Et là, on ne parle que d'ambition personnelle. On ne parle que d'ambition personnelle.
Oui. Oui, oui, parce que parce que Renaud Muselier, lui, se justifie en disant « Hier, ma famille politique me soutenait à l'unanimité car j'étais le meilleur pour la région. Aujourd'hui, parce que Jean Castex annonce retirer la République en mars, je suis accusé de trahison. » Mais comment il peut accepter, effectivement, ou comment les électeurs vont accepter de voter pour Sophie Cluzel, qui donc s'est retirée.
Oui,
il va y avoir un mix de
listes. Tant mieux, elle va travailler, elle est ministre. Parce que je trouve qu'en ce moment, on se consacrait, elle avait complètement arrêté à son ministère, donc tant mieux, elle travaille,
c'est
à bosser.
C'est une ministre qui travaille,
elle travaillait, quand on est en campagne électorale.
Il faut pas sous-estimer, je pense, Renaud Muselier, qui est quand même un homme politique.
C'est pas le sujet.
Non mais si, c'est important.
Non mais c'est un homme politique habile.
Habile, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Je pense que quand il va demander le soutien chez Jean Castex ou au LREM, il sait ce qu'il fait. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui est connu dans sa région. Enfin, il a quand même fait beaucoup parler ces derniers jours.
Sa région à lui, c'est Marseille, hein. Et donc à Marseille, il est ridicule. Soyons clairs, hein. Ouais. Si. Moi, non. Alors, en revanche, et puis n'oubliez pas que c'était Estrosi qui a été élu dans la région, grâce au désistement de Castaner. C'est tout à fait exact.
Ouais. Hein.
Mais je veux dire, l'impact. Bon, Muselier essaye de sauver sa peau. Hein, il ne veut pas être ministre, il l'a déjà été, etc. Il veut garder cette
région. Je pense qu'il veut garder cette région, je suis d'accord avec vous.
Alors, je constate que Sophie est devenue mélenchoniste. C'est très bien, Sophie, parce que Sophie nous dit le programme. Mélenchon dit...
Parce que si c'est mélenchoniste, alors je suis mélenchoniste.
Personne ne va le lire, tout le monde s'en fout. Hein, vous savez très bien que le combat politique, il ne sera pas programme contre programme. Ce n'est pas vrai. Il sera courant contre courant, personne contre personne, parce que l'état de la France politique est celui-ci. Hein, il n'y a plus de parti. Il n'y a plus de parti politique digne de ce nom, c'est pas vrai. Hein, on a changé de phase. Macron a bousillé dans son intérêt, je le comprends. Hein, le système. Ah, Sophie, je pense que je serais extrêmement surpris que la bataille de 2022 se fasse autour des programmes. Hein. Oula.
Moi, je pense qu'on a tellement besoin que le pays soit réformé. Oui, on a tellement vu l'échec des promesses
une auditrice qui dit blablabla, elle y croit, Sophie, à la réforme de la France.
Oui, j'y crois. Ah, je le veux. C'est pas que j'y crois. Vous avez raison, je n'y crois pas vraiment, mais je le veux de toutes mes forces. Et je pense que la décadence vers laquelle on va sur la sécurité, sur l'économie, sur énormément de points, on peut pas continuer à creuser le fond de la piscine. Et je pense que là, d'abord, celui qui sera élu, c'est pas celui qui va faire des promesses, parce que c'est vrai qu'on n'y croit pas.
On parle des présidentielles, là, oui.
Oui.
D'accord.
Et, bon, on peut commencer éventuellement par les législatives. Ce serait pas mal. Mais je pense que c'est celui qui arrivera en disant « Voilà mon timing ». En un mois, je fais ça. Voilà comment je m'y prends.
Vous croyez que les gens y croient ?
Je veux y croire.
Alors, Marc est en ligne avec nous. Il voulait intervenir sur Sud Radio. Bonjour, Marc.
Bonjour, messieurs, mesdames, messieurs de Sud Radio. Écoutez, me laisser la parole sur cette belle antenne. Voilà. Oui, mais écoutez, je suis un simple citoyen. Bon, j'étais gaulliste, je suis républicain. Et il est clair que M. Muselier, qui tient peut-être à sa place, qui croit peut-être à des lendemains qui chantent en invitant les macroniens, mais il se trompe complètement. Et j'ai beaucoup d'amis qui ne voteront pas pour lui s'il s'associe aux macroniens. Donc il est exclu, ça me semble normal, on forme un mouvement. Voilà ce que je veux dire. Ce serait intéressant que Sud Radio pose la question aux habitants de cette région. Là, il est clair que ceux qui sont à la liste républicaine avec M. Muselier et les macroniens, ils vont se retirer, ils vont suivre ce que M. Jacob proposera. Par ailleurs, je veux dire, pour les présidentielles, j'avais vu dans le Figaro une huitaine de personnes républicaines qui avaient beaucoup de valeur chacun, M. Bisnard, M. Philippe Juvin et tout. Je pense que dès à présent, je vais écrire une lettre à M. Jacob, mais c'est ce qu'il fait, je pense. Il prépare un gouvernement en disant, à la santé, je mettrai M. Philippe Juvin. Écoutez, c'est quand même scandaleux qu'on veuille fermer l'hôpital Bichat-Milly, de très haut niveau, avec des greffes cardiaques. L'hôpital Beaujon, gastro-entéron, un des premiers français, même mondiaux, on veut les fermer pour faire un hôpital d'ambulatoire à Saint-Ouen qui va coûter des millions. M. Guérini nous a mis dans les boîtes à lettres depuis 2 mois. Voici le futur progrès. Je trouve ça scandaleux. Et que M. Philippe Juvin dise, il n'y a pas eu assez de lauréats, on en veut 20 000, et puis là, les problèmes seront réglés pour la santé. Madame Agnès Verdier-Molinier n'a jamais pu avoir les comptes de la Sécu, c'est scandaleux aussi. Après, dans d'autres domaines, M. Disnard, beaucoup de gens ont des capacités dans différents domaines. Que les Républicains forment ce nouveau gouvernement en disant, voilà, on mettra telle personne là, telle personne là, telle personne là, et le plus vaillant d'entre nous, peut-être M. Retailleau ou d'autres, sera candidat à la présidentielle avec cette armée de ministres. Voilà ce que je propose maintenant, de l'utopie.
Oui, en tout cas, ils sont assez dépités des différents échos qu'on a pu avoir. Je crois que les Républicains ce matin, enfin depuis hier, sont assez effondrés. On y revient dans un instant avec vous, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, jusqu'à midi, nous évoquions donc cet accord en PACA entre les Républicains et La République En Marche. Enfin, ce n'est pas un accord Les Républicains, c'est un accord qui a été passé entre Renaud Muselier. La République En Marche a décidé de retirer sa liste et de fusionner avec celle de Renaud Muselier. Il a perdu son investiture. Et il y a une auditrice qui pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est Jean Castex qui a pris la parole. Est-ce que c'est lui qui est devenu chef de La République En Marche? Pourquoi c'est lui qui s'exprime sur le sujet? Régis de Castelnau, peut-être pour...
Écoutez, sous la Ve République, les premiers ministres ont toujours été les chefs de la majorité. C'est-à-dire qu'ils intervenaient dans les élections, le président restant à l'écart, on ne l'entend pas, sur ces élections locales, etc. Donc, ça ne me choque pas, enfin, en termes de fonctionnement, que Castex le fasse. Alors, les motivations, on est en train d'en parler. Je sais aussi, et je me rappelle aussi, que Castex est issu de la matrice LR et qu'il est en train de faire ce travail pour essayer de faire exploser les LR. Donc, l'intervention directement politicienne qui fait tant de peine à Sophie, elle est 5e République classique.
Ouais. Après,
Mais moi, elle me choque. Pour tout vous dire, elle me choque. Parce que franchement, Bertrand Soublet, le ministre, il a autre chose à faire que de s'occuper des questions politiciennes des régionales, parce que notre pays est dans une situation telle que s'il commence à s'occuper de ça, franchement, je ne sais pas s'il lui reste du temps pour faire le reste. Chacun fasse vraiment son métier. Et lui,
général,
il est
vous pensez Castex capable de faire le métier de vrai Premier ministre?
Non, mais c'est pas mon opinion. Non, mais sans ironiser.
Non, mais ça, c'est autre chose. Vous avez raison, mais c'est autre chose.
Non, mais là, on parle depuis tout à l'heure de la mort des LR, mais il faut aussi parler quand même de la naissance de LREM. Qui peut m'expliquer si ce parti existe, en fait, LREM? Il faut être honnête. La République En Marche, vous allez dans la rue, vous demandez le nom du premier secrétaire de La République En Marche, personne ne sait que c'est Stanislas Guérini.
Alors,
très
honnêtement. C'est compliqué, parce que je vais pas... C'est compliqué. Il a voulu faire un parti différent, qui soit en même temps, on a bien vu ce que c'était. Il a pris des gens différents, parce que tous les Français voulaient la société civile, voulaient des partis différents, etc. Donc, il n'y a pas eu, c'est vrai, à la tête de ce parti, quelqu'un de suffisamment intellectuellement ou même fort pour arriver à en faire un parti, mais il est hétérogène. Alors, les Français ont aussi voulu ça, le en même temps. Et c'est un peu ce que Macron avait promis. C'est pas un parti.
En même temps-là.
Ils n'ont pas réussi à gagner d'élections majeures.
Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les différents sujets.
Peut-être. Donc, ça veut juste dire qu'on assiste à une recomposition politique générale. Donc, moi, ça ne me choque pas que le chef du gouvernement, pas de la majorité, que le chef du gouvernement moment.
Enfin, pas en ce moment.
Mais écoutez, pourquoi pas en ce moment? Ça veut dire qu'on doit tout arrêter et ne plus faire de politique quand on est Premier ministre.
On doit gérer la France.
Mais il gère la France. Attendez,
non, il gère la France.
Quand vous avez eu des Premiers ministres avant, plutôt Manuel Valls, il faisait de la politique et il gérait la France pendant les attentats.
Et Georges Pompidou.
Mais, excusez-moi, mais on était dans un contexte de terrorisme qui était hors norme à l'époque, où tout le monde avait peur au coin de la rue. Et Manuel Valls, je me rappelle très bien,
il faisait
de la politique.
D'ailleurs.
Peut-être, mais ça après...
Enfin, on retient ce qu'il a fait contre le terrorisme, parce que je dois dire que je n'étais pas pour ce gouvernement, mais Manuel Valls a été très bon. Franchement, on a l'impression que qu'est-ce que ça vient faire? C'est un cheveu sur la soupe, là. Tenez, je vous présente... Enfin, c'est un peu étrange. Peut-être que c'est bien.
Alors, je voudrais qu'on change de sujet, qu'on revienne sur les manifestations du 1er mai, qui, dans l'ensemble, se sont effectivement bien passées. Des auditeurs nous le disent. On va en parler. Il y a eu des violences qui ont émaillé ces manifestations. Mais avant, quand même, je vois cette information. 3 interpellations hier soir après une rixe entre une quinzaine de livreurs Uber Eats à l'arrière du Burger King de Neuilly-sur-Marne, pas Neuilly-sur-Seine. Un des témoins a indiqué que certains livreurs étaient munis de machettes sans qu'elles ne soient retrouvées. Une policière a été blessé. C'est pour faire suite à ce que je disais tout à l'heure sur ces violences et sur ce que disent aussi nos auditeurs. C'est-à-dire, oui, parler de la réunion PACA, en PACA de LREM-LR, c'est dérisoire par rapport à cette situation qui perdure et qui existe en France. Ça n'a aucun lien avec les violences des manifestations, mais je voulais vous signaler ça parce que c'est une violence au quotidien qui est là, qui perdure et qui est contre laquelle on est assez impuissant quand même. Hein. Parlons de ces manifestations, donc ces violences, hier vous les avez vues, des militants CGT agressés. La réponse de la CGT, c'est que ce sont les militants d'extrême droite. Philippe Martinez demande des explications à la préfecture de police. Alors, est-ce que c'est la faute des Black Blocs? Comment vous avez perçu ces images, Bertrand Soublet?
Ah ben, je les ai perçus comme tous les Français, c'est-à-dire que je suis toujours malheureux de me rendre compte que dans notre pays, il ne peut pas y avoir de manifestation et d'expression publique sur la voie publique sans qu'il y ait un certain nombre de violences en permanence qui sont exercées par des gens qu'on connaît en réalité et qu'on pourrait neutraliser avant qu'ils arrivent sur les lieux pour commettre ces violences. Donc, on fait des progrès, mais je pense qu'on n'en fait pas assez.
Samedi, il y a des gens qui ont été interpellés avant la manifestation. Vous dites, à chaque fois qu'il y a une manifestation, quand il y a eu le rassemblement pour Sarah Halimi, il n'y a pas eu de violence.
Oui, c'est vrai.
Quand il y a la marche pour le climat, il n'y a pas de violence. Donc, il y a un certain type de manifestation qui génère cette violence.
Oui, mais vous avez toujours en marge de chaque manifestation des actes de violence dont on ne parle pas, parce que même pour celles que vous venez de citer, ce que vous ne savez pas, c'est que il y a en marge de la manifestation ou après des gens qui viennent taper le bazar, quoi. Et ça, personne ne s'en fait l'écho et personne n'en parle. Vous savez, dans notre pays, l'expression médiatique est peut-être libre, mais en tout cas, ce que j'observe, c'est que elle n'est pas toujours le reflet de la réalité. Oui. C'est ça qui m'étonne beaucoup. La vérité, c'est ça. Il suffit simplement de parler un tout petit peu avec des policiers et avec des gendarmes off. Vous verrez ce qu'ils vous raconteront. Ils vous raconteront la vérité. Et ce n'est pas celle des médias. Pardon, mais ce n'est pas celle des médias.
On essaye, nous, en tout cas, sur Sud Radio, de donner le maximum la vérité du terrain. Et l'autre jour, on a un médecin dans un autre genre qui nous a appelés. Mais oui, il y a un décalage, effectivement, entre ce que vivent les policiers et la... Oui, Sophie.
Oui, je disais que je me demande... D'abord, c'est la grande muette, l'armée, il faut s'en féliciter.
Non, mais on ne parle pas de l'armée, on parle...
Non, mais je dis que pour communiquer les infos, par exemple, après manif, des dommages qu'il peut y avoir, etc.
C'est la police, c'est pas l'armée.
Oui, mais la police, est-ce que c'est son boulot de communiquer? Est-ce qu'elle
le fait?
Pourquoi
l'armée? Il n'y avait pas d'armée, là?
Non, je dis que les gendarmes, c'est l'armée. Donc
oui,
ils ont
d'accord,
pas le droit de...
d'accord.
Mais je me demande, pour répondre aux médias, est-ce que... peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas informés de ce qui se passe en amont et en aval.
Ou qu'il y a une idéologie qui fait que...
Non, mais attendez, je pense qu'il y a... là, je parle des violences qui se sont produites et qu'on a vues, parce que ça, c'est la nouveauté. Je veux dire, tout le monde a son smartphone et filme, etc. Alors, c'est naturellement monté en épingle, parce que la CGT est douloureusement surprise de s'être fait prendre à partie, alors que dans les périodes récentes, elle a fait du suivisme vis-à-vis d'un certain nombre de débordements. Hein, elle n'a pas été très claire au moment des Gilets jaunes.
Non.
Je veux dire, elle leur a vraiment... dire, compter leur soutien. Non, il y a des groupes de provocateurs, on les connaît, il y a ces Black Blocs, etc. Et donc là, ils sont venus, il y a eu un affrontement parce que, moi, me semble-t-il, hein, j'ai été un peu nouvelle.
Est-ce que c'était des Black Blocs?
Je pense, oui, je pense que c'était
des Black Blocs. La CGT dit que ce sont certains se revendiquaient gilets jaunes. Hein.
Mais bien sûr, il faut disqualifier, puis il ne faut pas dire la réalité. Hein, c'est la fachosphère, c'est l'ami imaginaire, c'est la fachosphère qui nous a tapé. Hein. Donc, ce que je vais ajouter également, hein, parce que en évoquant quelques souvenirs, hein, il fut un temps où ces provocateurs existaient déjà. Je peux vous dire qu'avec le service d'ordre dont disposait la CGT, oui, et le Parti communiste, oui, manifestation, ça ne se passait pas comme
absolument
ça.
Absolument.
Pas la même, hein, époque. En général, les gars, ils venaient, puis ils repartaient vite.
Beaucoup plus organisés.
Hein. Et là, cette fois-ci, moi, j'ai vu quelques freluqués, je suis méchant, mais de 30 kilos ou de quelques personnes âgées qui se sont trouvées face à des gars rompus à ce genre de violence de manifestation qui étaient ces Black Blocs, hein, et ils ont pris une dégelée. Le communiqué de la CGT parlant de d'extrême droite, il est pathétique.
Mais alors le plus pathétique, c'est un auditeur qui me le signale, fidèle auditeur Gourdans, et je l'ai entendu également, question à Benjamin Hamard, donc syndicaliste CGT, qui s'est attaqué à vous, et réponse du penseur, analyste, polémiste, cégétiste, elles sont à combien les merguez? C'est une insulte spécifiquement d'extrême droite. Effectivement, j'ai entendu dire ça, parce que dire elles sont à combien les merguez, c'est du mépris de classe, voilà. Il y aurait que les pauvres qui mangent des merguez. Mais c'est vrai que les justifications de la CGT sont... un peu étrange.
Moi, honnêtement, je suis abasourdi par la violence. Vous avez vu les vidéos comme moi. Franchement, je suis abasourdi par cette violence qui est de plus en plus forte.
Mais moi, j'étais plus abasourdi, pardon de vous interrompre, par la violence contre les policiers et les pompiers, enfin, en tout cas, ce policier, celle de la CGT. Ils ne sont pas attaqués aux hommes, ils sont attaqués au matériel.
Par derrière, ils attaquent les policiers par derrière. Et puis, il y a aussi une chose, c'est qu'ils se cachent beaucoup plus facilement. Les masques qu'on est obligé de mettre, ça leur sert bien aussi, vous le voyez sur les images. Ouais. Moi, honnêtement, il y a une violence hors norme. Vous en parliez il y a quelques minutes, Valérie. Il y a une violence hors norme. Elle se traduit dans ces manifestations-là. Mon sentiment aussi, c'est pourquoi on en arrive là, c'est que j'ai l'impression, et peut-être que le général pourra mieux en parler que moi, qu'on parle beaucoup de millefeuille administrative dans notre pays, mais il y a aussi beaucoup un millefeuille de décision. Vous savez, c'est l'Élysée qui va demander à Matignon qui va demander au ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur qui va demander à la préfecture, et puis après, peut-être que ça va agir. Il y a un moment, peut-être qu'il faut aller plus vite, sauter toutes ces étapes-là, et rentrer, entre guillemets, plus vite dedans, parce que sinon, c'est sûr que ça va se développer. Ils sont beaucoup plus organisés qu'avant, beaucoup plus, et vous le voyez, ils sont vraiment rangés ensemble, ils savent quand les policiers vont arriver, ils arrivent derrière eux pour les taper. Bon, voilà, tant que vous mettrez pas un processus de décision beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, vous serez face à ce genre de situation.
Et puis, ce qui est terrifiant, c'est que, si j'ai bien compris, personne n'arrive à les arrêter.
Alors,
Cette violence. Oui. Sur cette violence qui est effectivement très spectaculaire. Hein. Ils sont organisés, etc. Avec la CGT qui viennent aujourd'hui pleurnicher en disant « Ah, vous avez vu, c'est l'extrême droite. » Elle a été complaisante vis-à-vis de ces mouvements. Vous vous rappelez de ce Bernanos qui a agressé une voiture de police, rappelez-vous, c'est dans les manifestations d'avant, qu'ils ont acheté un cocktail Molotov à l'intérieur dans cette manifestation. Il a été condamné, la CGT était au premier rang pour protester contre cette condamnation. Non, mais au bout d'un moment, ça va, quoi. Hein, je veux dire, il y a une espèce de collusion. Hein. Alors, avant, vous aviez une séparation entre ces gauchistes et le mouvement ouvrier responsable. Hein. La CGT qui est en train de verdir son programme, quand elle ne va pas participer derrière Marwan Mohamed le 10 novembre aux manifestations contre l'islamophobie, hein, elle n'a que ce qu'elle mérite. Elle perçoit les dividendes de ses dévoiements.
Bertrand Soublet.
Oui, en réalité, je pense qu'en effet, c'est un problème de terrain, c'est un problème de décision. Quand on est au maintien de l'ordre, au rétablissement de l'ordre sur la voie publique, il faut absolument que celui qui est au plus près puisse prendre des décisions de conduite, on appelle ça une décision de conduite, au plus près et au plus vite. Or, à la préfecture de police de Paris, moi je me suis battu contre ça quand j'étais aux affaires, eh bien la préfecture de police veut tout gérer, veut tout avoir sous contrôle, mais c'est pas possible, parce que quand on est dans une salle de commandement et qu'il y a quelqu'un sur le terrain qui demande une autorisation pour intervenir, eh bien, quand il a l'autorisation, c'est déjà trop tard et c'est déjà fait. Et en réalité, il faut laisser l'initiative, il faut faire confiance à l'intelligence des chefs de terrain pour pouvoir traiter les sujets. Alors après, il faut un peu de courage, parce que quand ça se passe mal, parce que des fois ça se passe mal, il faut assumer. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est ça, c'est d'assumer. On ne veut pas prendre de risques parce que assumer des bavures, ce qu'on appelle des bavures ou des comportements non conformes et des blessures, ça pose un problème. Eh bien, tant qu'on en sera là, nous n'avancerons pas. Et alors, il est absolument essentiel que les chefs de terrain puissent agir en toute liberté, mais avec mesure et proportionnalité.
Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va revenir sur le clip joyeux d'Emmanuel Macron, nous retrouver le calendrier donc du déconfinement. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Alors, je voulais vous faire réagir sur ce clip diffusé par Emmanuel Macron. Ce clip, cette bande-annonce, c'est comme ça la bande-annonce du déconfinement. C'est ainsi que certains ont compris. C'est dans la presse luxembourgeoise où il s'est fait moquer, le président de la République. Donc, il a tweeté ce clip avec « Nous retrouver ». Alors, certains ont ironisé en dessous en disant « En réa », parce qu'effectivement, la situation sanitaire n'est pas des meilleures. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc l'idée, c'est vraisemblablement de redonner de l'espoir aux Français, puisqu'on voit des gens attablés à des terrasses, et puis des enfants qui se retrouvent, et puis des verres qui trinquent, et puis tout ça se termine en apothéose le 30 juin avec des images de supporters dans un match de foot, voilà, pour l'Euro. Donc bonne com, mauvaise com, Alex Darmon.
Je ne sais pas si c'est très adroit. En tout cas, encore une fois, je trouve. Enfin, il est dans une séquence de préparation à la présidentielle. Non, mais c'est obligatoire et c'est comme ça. Donc, il décide de jouer cette carte-là. Maintenant, honnêtement, moi, voir ces images-là, ça me fait aussi plaisir. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. J'ai envie de retrouver ma vie d'avant. Et je pense que quand vous voyez toutes les images dans le monde, quand vous voyez à Londres que tout est revenu un peu à la normale, que vous voyez à Tel Aviv.
Ils ont fermé, ils ont confiné pendant des mois. Ils ont vacciné, la situation n'est pas exactement la même.
Je suis d'accord. Attendez, on a quand même espoir qu'on vaccine aussi beaucoup en France. On est quand même à 15 millions de doses, première dose, pardon, aujourd'hui. Au 30 juin, logiquement, le 15 juin, j'aurai le droit de me faire vacciner. Normalement, je ne sais pas si j'y arriverai, mais on aura le droit de se faire vacciner. Donc il faut aussi un peu d'optimisme.
Oui. Mais d'ici le 30 mai. Moi, je suis peut-être la...
Non, mais je suis d'accord avec vous.
Moi,
c'est un risque. Flipper c'est un vrai
le
risque.
Clip. Moi, à la limite, risque. Ça me fait contre-effet. J'y crois plus. Je suis un peu déprimée.
Il faut pas.
Ça se prolonge beaucoup.
Il faut pas.
Ouais. C'est vrai. On se demande si ce virus ne va pas rester beaucoup. Ça diminue pas beaucoup en ce moment.
Si, bah quand même.
Non. Là, depuis deux jours,
ça décroît un peu.
Quand même.
Un tout petit peu. Depuis deux jours, moins.
Ça continue vraiment à décroître. Aujourd'hui, même dans les.
Tant mieux alors. Mais en tout cas, tout d'un coup, c'est. C'est un peu un conte de fées. Franchement, je ne sais pas. S'il y a des gens à qui ça peut remonter le moral, tant mieux. Je ne trouve pas que ce soit... On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'être sur le registre de la communication. Ça continue.
Ouais.
Évidemment, les gens qui sont contre Macron vont caricaturer ce clip.
Ce n'est pas que les gens qui sont contre Macron. Il faut arrêter de dire que ceux qui sont pour plus de prudence sont contre Macron et ceux qui sont pour la liberté
Les anti-macronistes sont tellement violents sur tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit...
Parce
que les anti-macronistes sont très très violents.
Mais arrêtons de politiser le virus.
D'accord.
Vous, Régis, vous en pensez quoi de ce clip?
On lui a beaucoup reproché. Je ne prends pas sa défense. Je ne suis pas tombé malade.
Attention.
Donc, on lui a beaucoup reproché de ne pas donner de perspective. Et c'est vrai que dans ces contraintes, dans ce confinement, devant cette interdiction de se retrouver, etc., l'absence de perspective, l'absence d'échéance était très difficile à vivre pour les gens. Les psychiatres ne vont pas me contredire. Donc, on lui a reproché de ne pas donner des perspectives. Il en donne, alors toujours comme d'habitude, en infantilisant les Français. Ça, c'est vrai, je trouve ça un petit peu, dommage, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement, et je suis d'accord, qu'en ce qui concerne ce qui est la conséquence de la gabegie précédente, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt, on n'est peut-être pas confiné au bon moment, je ne sais pas. Hein, il y a la question du retard de la vaccination qui n'est pas acceptable, etc. Mais il fallait bien… le printemps arrive, alors on a un printemps très frais. Je me demande si ça n'a pas une influence sur le maintien de contamination à un haut niveau. Hein, je rappelle que l'année dernière, ça s'était effondré avec l'arrivée des beaux temps, du beau temps.
Oui, enfin, beau au Brésil, il a fait chaud et beau et ils ont eu…
Si vous voulez, j'ai la chance d'être en Provence. Je veux dire, c'est un petit… Là, aujourd'hui, il fait très beau. C'est un peu insupportable, quoi, de pas pouvoir de pas pouvoir voir les gens, de pas pouvoir aller au restaurant, et puis surtout de pas pouvoir voir les gens.
Oui, donc, alors
décidez que des amis viennent, il y a le problème du couvre-feu, vous pouvez pas, vous devez compter s'ils sont, ils vont pas être plus de 6, etc.
Dans les manifs. Bon,
alors, je voulais le tweet que j'ai repéré hier de Philippe Moreau-Chevrolet, qui est un communicant. L'appel du 10 juin vu par Emmanuel Macron. Française, ça y est, on a gagné. Mais mon général, les Allemands sont toujours là. Oui, je sais, mais les Français en ont marre de l'occupation. c'est quand même un peu ça, non?
C'est pas mal.
Bertrand Soublet.
Bah, écoutez. Moi, d'une manière générale, je trouve que ce gouvernement et le président de la République, en l'occurrence, fait beaucoup trop de com, franchement. Oui. Mais en réalité, sur ce coup-là, le président de la République, il a encore joué un bon coup, c'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de reprendre la main. Il a fait un clip qui donne des perspectives, comme disait Maître de Castelnau, ça donne des perspectives aux Français. Moi non plus, je suis pas toujours d'accord avec le président de la République, mais je pense que ce clip, ça donne un peu d'espoir dans ces temps où les choses sont pas faciles à vivre pour beaucoup de personnes dans notre pays. Donc, si on peut se faire un peu de bien, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu, il aurait pu être un peu plus, comment dirais-je,
sobre,
un peu un ton en dessous, quoi. Mais voilà.
Oui, et il aurait pu être plus sobre. Et puis surtout, alors je m'interroge quand même, parce que c'est sur Twitter et YouTube, il y a quand même une France qui souffre de tout ça, etc., qui est pas sur Twitter et YouTube.
Il va arriver à la pub télé, bien sûr.
Précédents clips, ça va arriver progressivement à la télévision. Mais après, encore une fois, on va me dire que je fais de l'analyse politique toujours, mais c'est que ça. C'est que ça.
Oui, mais on en a marre.
Mais vous en avez marre, peut-être, mais pas lui. Lui, il est dans cette séquence-là. Qu'il récupère la main et il faut qu'il se dise, voilà, qu'il donne des projections. Ça a très, très bien dit par Maître de Castelnau, qui donne des vraies projections. Et puis le printemps revient. C'est un peu le slogan du gouvernement. Tous les ministres disent ça, le printemps va revenir bientôt. Ils vous disent tous ça en ce moment. Donc ils espèrent, ils attendent.
Alors le président de la République, la semaine dernière, a dit: je fais des choix, ce ne sont pas des paris. Un choix, c'est quand même toujours plus ou moins un pari.
Je suis pas d'accord avec lui. Effectivement, je pense que quoi qu'il arrive, quand vous faites des choix et que vous prenez des risques. Et quand vous prenez des risques, ça veut dire que vous pariez sur une situation. Voilà. Ouais. Donc, pour le moment, les chiffres sont en train de baisser. Ça a été dit il y a quelques secondes. En plus, le beau temps arrive. Donc, normalement, on va être plus en extérieur et les chiffres ne vont pas augmenter moins rapidement, en tout cas. Voilà, il fait ce choix-là de se dire on y va, c'est bientôt le déconfinement et il faut donner des perspectives heureuses au peuple français. Voilà, c'est un choix.
Oui. Bertrand Soublet, c'est aussi votre
analyse. Le problème du président de la République depuis le début, c'est que en réalité, il fait des choix, mais il les assume pas, quoi. Et chaque fois que ça se passe mal, c'est pas de sa faute, c'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute des circonstances. Donc, moi, c'est ça qui me choque un peu. En réalité, quand on est responsable de quelque chose, on assume le meilleur, on assume aussi le pire, mais on le fait de manière transparente et on n'essaie pas de se décharger sur les autres. C'est juste ça, moi, qui m'énerve régulièrement quand je les entends se défausser. Il faut pas se défausser. Les Français en ont marre de responsables politiques qui se défaussent. Il faut assumer. Il faut prendre ses responsabilités et les assumer. Et ne pas essayer d'embrouiller les Français avec des querelles de langage. Ça n'a aucun sens.
Certes, mais on voit mal le président de la République dit: je me suis complètement planté, j'ai eu tort. J'aurais pas dû remettre les enfants en classe.
Bah, pourquoi pas?
Angela Merkel l'a fait. Hein.
Ouais.
Angela Merkel l'a fait. Elle l'a fait quand elle s'est plantée pour le week-end de Pâques. Édouard Philippe le faisait. Édouard Philippe disait: je ne sais pas. C'est vrai qu'on entend moins le président de la République dire: je ne sais pas.
Oui.
On n'attend pas. Moi, j'ai pas envie que le président de la République dise je ne sais pas, sauf dans des conditions effectivement très 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 particulières ou pointues. Moi, j'ai jamais vu de responsable politique effectivement, mais c'est aussi de la politique. Dire je me suis trompée.
Angela Merkel. Ouais. Angela Merkel l'a fait, mais là, en l'occurrence, c'est
un choix.
Elle l'a
fait très bien et discrètement, adorée dans son pays.
C'est à Paris. Vous savez qu'il y a des médecins, des scientifiques, des épidémiologistes qui ne sont pas d'accord. Parce qu'on est en train de déconfiner avec un taux plus haut de contamination et du nombre de malades en réanimation que quand on a décidé du confinement. Donc, c'est vrai qu'on a le droit de se poser aussi des questions sur ça, sur cette décision-là. Ah oui. Et sur ce qui va se passer. Certains prédisent qu'il peut y avoir un rebond, ce qui on fait mal ce déconfinement. On n'a pas fait les mêmes choix que d'autres pays, comme l'Angleterre,
cela
qui est confinée
et vaccinée. Ils se contredisent terriblement, hein, les experts. Mmh. Ils sont aussi sur la pointe des pieds.
Aujourd'hui, les chiffres...
Les hommes politiques font une erreur fondamentale. Ouais. C'est qu'ils ne reconnaissent pas leurs erreurs parce qu'ils croient qu'ils vont perdre de leur autorité et la confiance des Français. Mais c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est qu'en reconnaissant ses erreurs, on gagne en autorité et en confiance. Et je n'arrive pas à les comprendre, franchement.
Ouais. Moi, je lis un commentaire de Sud Radio. Pour les vrais gens, tout cela est grotesque. Les jours heureux de Macron, j'ai l'impression d'écouter les guignols de l'info.
Oui,
c'est nos auditeurs.
Et un auditeur me dit, dites et redites à vos chroniqueurs d'arrêter de dire que la chaleur aide à la diminution du virus. Comme vous l'avez souligné, le Brésil et la Colombie, où cet auditeur nous avait raconté que la fille d'une de ses amies de 19 ans est toujours dans le coma et intubée, a fait 2 arrêts cardiaques et il fait 30 degrés en Colombie. Donc effectivement,
honnêtement, je ne sais pas, peut-être que je me trompe.
Je sais pas.
C'est bien d'avoir dit ça.
Voilà, exactement. Bravo. Vous voyez, ça fait quoi ce qu'on vient de dire ?
Impossible de faire de la politique.
Impossible de faire de la politique. Écoutez...
Justement.
Et comment on fait alors, Bertrand Soublet, vous qui faites partie d'un mouvement politique ?
Moi, je pense qu'il faut être, transparent avec les Français, il faut leur dire les choses telles qu'elles sont. Quand on a besoin de faire ou envie de faire quelque chose, il faut le dire et il faut expliquer pourquoi. Quand on se trompe, il faut le dire et il faut expliquer pourquoi. Et on gagne automatiquement en autorité et en confiance. Mais moi, j'ai pratiqué ça pendant 35 ans de ma vie. J'ai commandé des dizaines de milliers de personnes partout en France. Et j'ai toujours fait comme ça et je m'en suis toujours bien trouvé. Je suis très étonné que les hommes politiques n'en fassent pas autant.
Donc les militaires au pouvoir.
Non, pas les militaires.
Va avoir des ennuis, le général Soublet.
En réalité, ce que les Français
cherchent. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a contre les militaires ?
C'est pas les militaires au pouvoir. C'est simplement les valeurs que les militaires portent. C'est ça la vérité. Les Français, les militaires, je veux dire, ils s'en fichent pas mal. Mais en revanche, ils ont du respect pour les valeurs que portent les militaires. Et c'est ça qu'ils recherchent. Les valeurs que portent les militaires. Pas les militaires en eux-mêmes.
Absolument. Allez, ce sera le mot de la fin. Un auditeur m'avait signalé en rapport avec votre coup de cœur, Alex, qu'il y a une application qui s'appelle Save Life. D'accord. Qu'il faut télécharger et qui permet de prévenir les secours et de vous donner les premiers... Moi, je l'ai téléchargé, cette application. Et d'appeler des gens qui sont capables de faire des massages cardiaques. Donc, il y a des défibrillateurs un petit peu partout. Donc voilà.
Et il faut en mettre dans les entreprises, je le précise. C'est facile à avoir dans les entreprises et il faut que les chefs d'entreprise en mettent.
C'est fini. Allez, merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.